On va reprendre notre réflexion sur la première lettre de Jean, là où nous l'avions laissée. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. Pas mal de choses, hein? Alors s'il est vrai, comme Jean nous l'a déjà dit, que l'amour du chrétien doit parfois tendre à son plein accomplissement jusqu'au don concret de sa vie, y compris par la mort violente, le martyr. Nous sommes tous conscients, je pense, que cela arrive rarement, que ça risque pas de nous arriver, nous qui sommes du côté occidental des choses, en tout cas pour l'instant. C'est donc sans doute pour enlever une partie des illusions à ceux qui se verraient disponibles pour le martyr. « Ah oui, Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. » Tout en ne vivant pas l'amour par les actes du quotidien, que Jean donne aussitôt un exemple concret de cet amour à l'œuvre. Le partage avec un frère qui est dans le besoin. Vous aurez peu de chances de mourir martyr. Par contre, au quotidien, vous aurez beaucoup de chances de pouvoir venir au secours, de venir en aide à votre frère ou à votre sœur ou à n'importe lequel de vos prochains. De notre parenthèse, c'est sans doute parce que nous ne vivons souvent pas cet amour au quotidien que nous ne pouvons même pas envisager une seule seconde de mourir martyr, d'aller jusque-là dans l'amour. On ne finit pas la course sans l'avoir commencé. Revenons donc à notre exemple classique, hein, très classique, dans la littérature biblique, du frère dans le besoin, Jacques en parlera aussi dans sa lettre à lui. L'amour authentique, exprimé par le commandement nouveau que nous laisse Jésus, doit se vivre dans les faits. Et avant tout, dit Jean, dans la simplicité et le concret du quotidien, avec celui qui nous est proche. Rappelez-vous ce que nous disions la semaine dernière, on dépose sa vie pour ses frères, si on dépense sa vie pour ses frères. Donc, pas d'amour presbyte, qui ne voit et ne s'exerce que de loin, qui ne se voue qu'à ceux qui sont loin, mais bien l'amour perspicace est toujours à l'œuvre, qui voit, qui remarque celui qui est là, tout près, celui dont nous nous faisons le prochain. Alors, l'apôtre Jean, vu son âge lorsqu'il écrit cette lettre, a une longue et solide expérience de la vie d'Église, à n'en pas douter. Une vie, et nous le savons nous aussi, où l'on parle facilement d'amour, mais où en réalité, on le blesse de mille façons. On peut évidemment aider ceux qui sont loin, on l'a déjà fait, on continuera à le faire, c'est bien. Mais ce que Jean veut nous dire, c'est qu'on n'a pas de peine, de difficulté particulière à aimer ceux qui sont loin. On ne les connaît pas. Quand on envoie des thunes en Ouganda, c'est bien de le faire. Il faut le faire. Mais on ne connaît pas ces gens. Ils ne sont pas pénibles. C'est facile d'aimer quelqu'un qui est à 5000 km. Il est autrement plus difficile d'aimer ceux dont on partage la vie jour après jour. Je me rappelle de quelques années de ça, j'avais eu un contact téléphonique avec le président de l'époque, le président de la commission de l'aumônerie, qui me demandait des renseignements sur un frère dans la foi qui avait demandé à être aumônier et qui, à l'époque, connaissait quelques difficultés de couple. Moi, j'avais quand même plaidé pour que cette personne puisse devenir aumônier parce que, franchement, je pensais qu'il avait des capacités d'écoute pour l'être. Et ce président de la commission aumônerie m'a dit quelque chose que j'ai jamais oublié. La phrase est dure, hein. Mais comme il avait des problèmes relationnels avec sa femme, il a dit « quand on n'est pas foutu de prendre soin de son propre corps, à savoir sa femme, on n'essaie pas de prendre soin de qui que ce soit d'autre. » Parce que dans le cadre du couple, la femme ou l'homme est, le mari est le plus proche, forcément. Donc je pense que, consciemment ou non, on croit aimer sans peine l'humanité en général, mais on aime plus difficilement le frère bien réel qui vient à nos côtés et que par définition, nous n'avons pas choisi, forcément. Nous voudrions aimer, voire servir nos frères et sœurs, mais à condition de choisir ceux à qui iront notre service. Et notre amour a tendance à être un peu sélectif, pour différentes raisons. Il aime la même musique que moi. Ah, peut-être quand même déjà commencer à l'aimer un peu plus que les autres. Si vous écoutez la chanson française, qui n'est pas vraiment de la chanson d'ailleurs, vous n'avez aucune chance d'être aimé de moi. Non, mais c'est aussi bête que ça, en fait. Hein. Ça part de là. Hein. On ne le répétera jamais assez. L'amour vrai n'a rien d'un sentiment. Il n'a rien d'un discours. Il ne consiste pas à tenir des propos pleins d'affection, même si ce n'est pas négligeable. Hein. Il faut le faire. Il doit au contraire se traduire dans les actes, dans des attitudes qui vont correspondre à notre cœur profond, à ce qui se trouve dans notre cœur. Et qui vont donc, ces attitudes vont rendre visible notre véritable cœur. Parce que mes amis, que de caricatures de l'amour, hein, surtout dans l'Église, hein, c'est une gageure, mais c'est pourtant souvent le cas. L'abondance de paroles, les sourires, les gentillesses ont parfois bien du mal à masquer le froid du cœur. Comment vas-tu? Mais surtout, ne me dis pas comment tu vas, je n'en ai strictement rien à faire. Formule de politesse. Ne soyez pas choqués par ce que je dis. J'ai beaucoup moins d'expérience que Jean, mais mon vécu est réel quand même. Et le seul remède à cela est la mise en pratique réelle du commandement d'aimer. L'amour doit naître du cœur, il doit être dirigé par l'intelligence, purifié par le principe de communion, manifesté en dépensant sa vie pour son frère, en rendant concrètement service à l'autre, en demeurant fidèle à l'esprit fraternel, à l'alliance nouvelle. Et c'est pour cette raison que Jean demande au verset 18 « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. » Autrement dit, concrètement, sincèrement, conformément à l'amour de Dieu qui s'est manifesté à nous comme vérité par Jésus-Christ, son Fils. Vous savez, dans l'entourage des chrétiens que nous sommes, il y aura toujours des gens, des personnes dans le besoin. C'est d'ailleurs une promesse de Jésus, c'est une de celles qu'on n'aime pas, mais c'est une de ses promesses. Vous aurez toujours les pauvres avec vous, les nécessiteux, les gens dans le besoin, vous les aurez toujours avec vous. Des pauvres de toute nature, d'ailleurs, je pense qu'on ne devrait pas se limiter à la pauvreté financière. Des pauvres en richesse, bien sûr, hein, c'est le cadre et c'est le contexte du texte que je viens de dire. Des pauvres en amour, des gens qui ne sont pas aimés. Des pauvres en équilibre psychologique, des pauvres en Dieu, manquant de Dieu et de son amour, des pauvres encore et toujours des pauvres. Et en comprenant que nous en faisons partie aussi, des pauvres. Et donc, si l'on se trouve à leur côté, si l'on se fait leur prochain, nous ressentirons de la compassion et serons poussés à partager ce que l'on a. Et alors, le fardeau de notre frère en sera forcément allégé. Et en faisant cela, nous serons véritablement les enfants de notre Père, pareil à lui, lui qui a, rappelez-vous, hein, des entrailles de miséricorde, autrement dit un utérus, littéralement dans l'hébreu, et de compassion pour les hommes. Et on va prendre ce texte, il y en a d'autres. Dans Ésaïe 49, Sion, donc Israël, disait « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qui a l'allaite ? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre, même si elle l'oubliait ?» C'est fort ça, même si elle l'oubliait. « Moi, je ne t'oublierai pas. » Un autre texte dans un psaume dit « Tes parents, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai jamais. » On reprend notre texte. C'est déjà là, c'est bien. De Jean. Par là nous saurons, parce que nous aimons, dans la pratique, par là nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurons notre cœur devant lui. Oui, puisque j'aime, est-ce qu'il me demande d'aimer ? Si je prends conscience que j'aime vraiment, ben je me rassure, je sais que je suis un enfant de Dieu. Ça apaise mon cœur, ça amène de la paix à mon cœur. Parce que si les chrétiens que Dieu aime d'un amour fou aiment à leur tour leurs frères en acte et en vérité, alors ils sont sûrs qu'ils sont dans la vérité, de la vérité, qu'ils sont de Dieu. Et ça provoque donc une grande assurance et une paix profonde. Si quelqu'un aime, son amour justement est le signe que l'amour de Dieu est en lui, et alors conscient de cette réalité, il s'établira dans la sécurité. Le verset suivant, on va le prendre, a fait couler beaucoup d'encre. Ce n'est pas le seul, hein, mais... Et est considéré parfois comme un peu obscur. J'ai lu des commentaires sur ce verset, mais alambiqué comme ce n'est pas permis. En fait, vous comprenez encore moins ce qui se passe après avoir lu le commentaire. Ça existe. Hein. Vous verrez cependant que si l'on conserve à l'esprit la progression de pensée de Jean, ce verset s'éclaire assez naturellement. Voilà donc ce fameux verset, 1 Jean 3,20. « En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » Déjà, tire hors contexte, il ne faut jamais faire d'ailleurs, hein, mais tire hors contexte, déjà, c'est un verset qui me fait instinctivement du bien. Alors, je l'ai dit, Jean n'est pas né de la dernière pluie, et enfin, connaisseur du cœur humain et de son propre cœur, il sait bien que tout homme, quand on parle d'amour, connaît l'échec. N'arrive pas à aimer totalement. Ce qui peut, ou tout le monde, pour le dire autrement, ce qui peut le mener à une dissension, une sorte de fracture intérieure, qui va le déchirer. Je rappelle que le cœur, dans le langage biblique, est le siège de l'intériorité, le centre de la volonté, de l'intelligence, de la conscience, etc. C'est parce qu'il sait ça qu'on peut douter de notre capacité d'amour, même si on aime, c'est de ça dont on parle. On peut douter malgré tout. C'est pour ça qu'il va faire cette affirmation extraordinaire qui est en même temps une source de consolation. Même si ton cœur, et je vous adresse à vous, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît tout. Si notre cœur nous fait des reproches quant à la qualité de notre amour, bon, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui n'aime pas, je suis en train de parler de quelqu'un qui veut aimer, qui fait tout pour aimer, dans la pratique, hein, mais qui se fait encore des reproches parce que son amour n'est pas parfait. Disons-le comme ça. Si la tentation de ruminer les erreurs commises venait nous faire la guerre à l'intérieur, si nous entretenons des angoisses à propos de notre façon d'aimer, Dieu est plus grand que notre cœur. Autrement dit, il est véritablement au-dessus de la conscience de l'homme, de la perception que nous avons de nous-mêmes et de notre amour pour l'autre. Il connaît ce que l'homme ne connaît pas de sa propre personne. Comment je pourrais connaître en plus profond de moi-même la qualité de mon amour ? Difficile, hein ? Donc je peux en douter. Et il y a un effet pervers au fait de douter de l'amour que l'on porte aux autres quand on est sur ce chemin à la suite du Christ, c'est que quand on doute de l'amour qu'on a pour les autres, on arrête d'aimer. On s'arrête sur le chemin. On se sent incapable d'aimer. Parfois même pas digne d'aimer. Alors que Dieu y voit le désir d'aimer qui brûle dans le cœur de son enfant. Il voit la décision prise en faveur de l'amour. Il voit ses efforts de tous les jours pour aimer même ceux qu'il n'aime pas. Et dès lors, le regard de notre Père enveloppe de compassion les manques d'amour dus à la faiblesse de ce que nous sommes. Vous voyez tous ces actes qui viennent démentir le fait que l'on aime au quotidien. Tous nos échecs révélés. Parce que mes amis, nous ne devons surtout pas oublier, si nous voulons véritablement aimer, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Il sait ce que nous sommes. Pour le dire autrement, votre amour ne sera pas parfait ici-bas. Mais il peut en prendre le chemin. Enfin, il doit en prendre le chemin. Et nous ne devons pas oublier non plus que notre amour, tout imparfait qu'il soit, et c'est Pierre qui dit ça, couvre une multitude de péchés. Vous voyez, le fait d'intercéder pour quelqu'un qui est en dehors de la pensée de Dieu, on se met entre Dieu et la personne, par amour pour ce frère ou cette sœur qui est dans les difficultés. La tradition rapporte que le moine Jérôme de Gaza, encore un gars qui se pantait dans le désert de Gaza. Mais c'est grand le désert du Gaza, ils étaient les uns sur les autres, hein, peut-être pour ça. Alors qu'il était dans le désert de Juda, donc, Jérôme remarqua entre les branches d'un arbre un petit crucifix. Il n'était pas protestant, hein, donc Jésus était encore sur la croix. Il entendit alors la voix de Jésus qui lui demandait « Jérôme, qu'as-tu à me donner? Que vais-je recevoir de toi ?» Et Jérôme lui offrit, l'une après l'autre, toutes ses vertus d'ascète. Mais malgré cela, chaque fois, Jésus répétait sa requête. À la fin, devant le découragement de son interlocuteur, Jésus redit une dernière fois, « Jérôme, tu as oublié une seule chose. Donne-moi aussi tes péchés. » Tes manquements, dans l'amour, entre autres. Ça veut dire une chose terriblement importante. Si un chrétien est en mesure de s'abandonner totalement à Dieu, jusqu'à remettre entre ses mains sa faiblesse et ses péchés, qui toujours et partout l'accompagnent, il peut réellement accéder à cet état où son cœur cesse de lui faire des reproches. Enzo Bianchi dit que cet homme éprouve alors pour Dieu un sentiment de liberté de parole, de confiance. Et c'est aussi ce que dit Jean. Au verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Il parle ici d'un homme qui aime dans la pratique et son cœur ne le condamne plus. Il ne doute plus de l'amour qu'il porte aux autres. C'est cette confiance qui lui permet de se tenir devant Dieu comme un fils ou une fille, et le porte à tout demander à celui qui l'aime comme un père, en ayant, dit-il, dit Jean, la certitude d'être exaucé. C'est toujours intéressant, vous savez, quand on dans des temps de prière avec Dieu, quand on se demande, je fais la réflexion hier encore avec le petit truc pris en chemin, par rapport au texte, j'ai une des questions, si ma mère est bonne, hein. Bon, c'était vendredi, peu importe, où la personne qui faisait la lecture du texte biblique invitait à demander quelque chose à Dieu. C'était formulé du style « Que voulez-vous, que désires-tu demander à Dieu ? » Qu'est-ce qui vient en premier ? Ça, c'est intéressant, ça. Parce que directement, il y a quelque chose qui vient. Quand on dit « Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu ?» Il y a une pensée qui va arriver comme un TGV dans notre tête. Ce serait bien que ce soit « Apprends-moi encore plus à aimer ». Si c'est cette pensée-là qui vient en premier. Si c'est autre chose, c'est moins bien. On va se permettre de dire ça comme ça. Parce que c'est désintéressé. Quand je dis « Apprends-moi d'autant plus à aimer », je ne parle pas de moi, là. Cette demande à Dieu, elle porte pas, elle n'a pas moi au centre, elle a l'autre au centre. Et ça, c'est le genre de prière, Jean a raison, que Dieu exauce. Donc ton intérêt, ta première demande, c'est de pouvoir aimer davantage tes frères et sœurs, ton prochain, ça c'est le genre de prière qui me plaît. Jean ne veut pas, c'est un pasteur Jean, hein, Jean ne veut pas que nous soyons les proies, les victimes du désespoir, de l'angoisse. Il nous encourage tout au contraire à accepter de vivre dans l'état de ceux qui n'ont pas le sentiment d'être justifiés par eux-mêmes, qui n'ont pas le sentiment d'être parfaits, parce que apparemment ça existe, mais comptent uniquement sur l'amour et la miséricorde de Dieu pour eux. Car, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais si nous nous justifions nous-mêmes, Dieu ne peut pas nous justifier. Et je pense que nous devons, à ce stade, nous poser la question fondamentale. Oh oui, encore une question. Eh bien oui. Pourquoi si souvent refusons-nous de suivre notre Seigneur sur le chemin étroit de l'amour? Pourquoi est-ce qu'on refuse de faire ça? Alors que ce chemin est le seul à pouvoir nous faire grandir dans la ressemblance avec lui, c'est le seul chemin qui peut nous faire du bien, c'est le seul chemin qui peut nous transformer. Et c'est le seul chemin, j'en le dis assez, où nous sommes certains d'être sur le bon chemin. Je pense que le théologien Jürgen Moltmann fait preuve de discernement sur le sujet lorsqu'il écrit « Nous n'aimons pas car l'amour rend vulnérable et enlève les illusions. Il rend prêt à souffrir. Il conduit de l'isolement à la communion, toujours lié à la souffrance, avec des hommes autres et différents. Il change le monde en rendant vivantes les relations figées et triomphe de l'instinct de mort qui fige tout en possession et en puissance. » Je pense que Montaigne a raison de dire ça. Je pense que c'est la raison principale. Nous avons peur. Rappelez-moi de mon image, hein. Le chrétien, s'il fonctionne à la suite de son Seigneur, c'est une sorte de... Enfin, c'est pas une sorte, c'est un homme ou une femme tout nu avec une petite fleur sur la plage du débarquement en 45. Quoi. Ça tire dans tous les sens, tout le monde ferraille, tout le monde a des armes, tout le monde se blesse, et lui, il est tout nu avec sa petite fleur. L'amour, ça rend vulnérable. Mais c'est la seule chose qui rapproche de l'autre. Hein. La seule puissance de l'amour, c'est un peu la pensée de Moltmann, c'est la non-puissance. Je laisse descendre. Hein. C'est de la théologie, les petits choux, hein. Je suis désolé. Hein. On ne va pas faire de la philo, on fait de la théologie ici. Hein. Je répète ça, la seule puissance de l'amour, c'est la non-puissance. Il s'agit donc en aimant de partager la souffrance. Ah, dès que vous décidez d'aimer, vous allez souffrir. Prenez Jésus, il a fini sur une croix. Hein. Quand il dit « prenez votre croix et suivez-moi si vous voulez être mon disciple », où est-ce que va quelqu'un qui prend une croix? Il va se faire crucifier. Il ne va pas se promener sa croix comme ça pendant toute sa vie pour rien. Il va forcément aller vers la souffrance. Vous décidez d'aimer, vous décidez de souffrir. Bienvenue au club. C'est pour ça qu'on n'y va pas, ou pas assez souvent, ou parfois même pas du tout. Donc, je répète, il s'agit donc en aimant de partager la souffrance, de guérir par l'impuissance en s'offrant soi-même. La seule chose que vous pouvez offrir à l'autre, c'est vous-même. On ne guérit que par l'impuissance, parce que c'est la seule arme que possède l'amour, son impuissance. Relisez les Béatitudes. Je pense que beaucoup ont compris que ça parle un peu de Jésus, les Béatitudes. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour vous, ce Jésus-là? C'est un Jésus qui n'est pas tout-puissant. C'est un Jésus qui s'offre à chacun d'entre nous, qui meurt pour nous, qui nous montre le chemin à suivre, mais il n'est pas tout-puissant. Voilà pourquoi, je pense, nous avons tous besoin de cet amour-là, et aussi pourquoi il nous fait peur. C'est cette impuissance-là, manifestée à la croix comme un échec, qui sauve en fait l'homme de sa prétention à la toute-puissance, autrement dit à être Dieu, et de son incapacité à aimer. Pour la grande majorité des gens qui étaient présents au pied de la croix, ça s'arrêtait là. Ce taré de Jésus était mort en croix, dans l'impuissance totale. Ben descends, si t'es le fils de Dieu, descends de ta croix, hein, pauvre type. Allez, descends, hein, gros malin. pose un acte de puissance. Quel est l'acte de puissance? La non-puissance de l'amour. Et c'est ça qui nous sauve. Paul l'a aussi bien compris lorsqu'il écrit en Romains: en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif, donc pour tout le monde en fait. Mais quelle est la bonne nouvelle en fait dont parle Paul? Quel est le message de l'évangile? Dieu est amour et aime l'homme. Voilà, pas de plus compliqué que ça. Hein. Dieu est amour et il aime l'homme. Cette puissance dont parle Paul est celle de l'amour qui s'accomplit dans la non-puissance, dans l'absolue liberté accordée au cœur de l'homme. Forcément, c'est une non-puissance, l'amour. Vous ne pouvez pas imposer l'amour. L'amour, ça se reçoit, ça ne s'impose pas. Vous êtes impuissant face au cœur de l'homme. Comme Dieu l'est, il est impuissant face au cœur de l'homme. Mais c'est par cette impuissance qu'il sauve potentiellement l'homme et ouvre son cœur. Jean peut à présent terminer sa démonstration. Prends les versets 23 et 24. Après tout ça, vous comprenez pourquoi il y a un groupe le mardi pour expliquer les choses, pour expliquer l'explication. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. Il y a donc deux aspects à cet unique commandement de Jésus: aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Croire en lui, avoir foi en lui, être en communion avec sa personne et arriver à aimer ses frères, ça c'est le deuxième pendant, à aimer ses frères jusqu'à dépenser sa vie et la déposer pour eux, la donner pour eux. Notre travail consiste donc à croire en celui qui a été envoyé et à aimer les frères et sœurs. Ce sont les deux choses qui définissent en fait la nature de l'Église. Vivre ces deux choses, vivre de ces deux éléments, c'est la nature même de l'Église. Celui qui observe ses commandements demeure en Dieu, dit Jean. Ce qui signifie que s'il manque un des deux pôles, la connexion, la communion avec le Christ ou l'amour pour les frères, il n'y a plus d'Église dans les faits. Pour ceux qui étaient à notre office du vendredi, j'avais dit ça, on dit, ben, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas d'amour, il se passe quoi? C'est quoi l'Église? C'est une école dans laquelle des enfants jouent avec des jouets trop grands pour eux. Je ne suis pas sûr d'avoir dit ça comme ça va vraiment vous aider à comprendre, mais ce n'est pas grave. Et c'est bien l'Esprit Saint, on n'en a pas encore parlé, mais Jean en parle, et c'est bien l'Esprit Saint donné aux chrétiens qui lui est la preuve qu'en demeurant dans l'amour, ce chrétien demeure en Dieu et que Dieu demeure en lui. Parce que l'Esprit Saint appuie ce chemin. Je termine par une citation de saint Augustin, car il a très bien résumé ce passage de Jean, en unissant celui-ci d'ailleurs à la théologie de Paul basée sur Romains 5:5 que je vous lis, où je vous rappelle: « Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Voilà ce qu'il dit, et je terminerai par ça. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Et saint Augustin dit en commentant ce passage, en parallèle avec celui de Jean, c'est l'amour, donc suivez bien le raisonnement de saint Augustin, il parle de l'Esprit, le texte de Romains parle de l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Et un peu avant, Paul dit, nous ne savons pas ce qu'il faut demander, nous ne savons pas que prier, ni comment prier, c'est l'Esprit qui prie en nous. Et en partant de là, saint Augustin dit, c'est l'amour lui-même qui gémit. Il fait un match entre le Saint-Esprit et l'amour. Le Saint-Esprit gémit, c'est l'amour qui gémit. C'est une toute façon dit que si l'Esprit Saint est amour, le Père l'est, le Fils aussi, en passant. Hein, ben, soit. C'est l'amour lui-même qui prie. en présence de cet amour, celui qui nous en fait don ne peut pas boucher ses oreilles. Pourquoi est-ce que Dieu répond à ce genre de prière exprimée par le Saint-Esprit au travers de l'amour de la personne qui prie ? C'est parce que quand on prie par amour et en se reposant sur l'amour, Dieu qui n'est qu'amour ne peut que répondre, puisqu'il ne répond qu'à l'amour. Et il continue, « Sois tranquille, que l'amour prie et Dieu y est attentif. N'est-il pas évident que l'œuvre de l'Esprit-Saint en l'homme consiste à répandre en lui l'amour ? Ce que dit l'apôtre Paul n'est-il pas évident ? L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, mais qu'est-ce qui permet à chacun de connaître qu'il a reçu l'Esprit-Saint ? C'est la question que pose Augustin. Que chacun de nous interroge son propre cœur. S'il a de l'amour pour son frère, l'Esprit de Dieu demeure en lui. C'est un fait, il termine en disant ça, il ne peut y avoir d'amour sans l'Esprit de Dieu. C'est fort, qu'est-ce qu'il dit quand même. Alors, je n'ai pas terminé en prenant un contrario tout ce que saint Augustin a dit, en le formulant à l'envers, parce que ça embrouillait les choses, mais il y a un questionnement qui doit nous habiter. Quelle est la qualité pratique et réelle au quotidien de mon amour pour les autres ? C'est la question la plus importante qu'on peut se poser. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu répondra à cette interrogation, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.